Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit, Sacha Guitry. Faut-il commencer une nuit, Sacha Guitry, par une courte biographie? Non. Ou alors, plus que courte, réduite à ce que l'on peut lire sur une pierre tombale, date de naissance, puis date de décès. En l'occurrence, 1885-1957. 1957, donc, il y a 60 ans que Sacha Guitry est mort. 60 ans que Sacha Guitry continue d'être joué sur scène. Plus de 120 pièces, mais toutes ne sont pas reprises. 60 ans que l'on peut voir et revoir ses films, 36 films, mais on ne les voit pas tous. Alors, les pièces de Sacha Guitry, eh bien, les éditions Omnibus ont édité le théâtre complet de Sacha Guitry. Et puis, ces mêmes éditions Omnibus ont eu la bonne idée de publier en un seul volume les pièces en un acte. Alors, les pièces en un acte, les titres sont un petit peu moins connus que les autres. Le KWTZ, le cocu qui faillit tout gâter, un type dans le genre de Napoléon, ça c'est un peu plus connu. On passe dans 8 jours, le mot de Cambronne, ça c'est très connu. Je sais que tu es dans la salle, etc., etc. Bonsoir Nicolas Briançon.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, vous qui mettez en scène et interprétez magistralement actuellement au Théâtre de la Madeleine à Paris, Faisons un rêve, est-ce que vous connaissez de ces pièces en un acte qui étaient parfois jouées, créées pour des levées de rideaux, pour des soirées de gala?
Alors d'abord merci pour le magistralement qui me flatte et me touche, mais j'en connais quelques-unes. Oui, il y a une gifle, il y a plusieurs petites pièces comme ça. Il me semble qu'il y a quelques années, avant Mon père avait raison, Bernard Murat avait monté un petit spectacle de pièces en un acte avec Martin Lamotte, Chloé Lambert notamment, Florence Pernel, qui se jouait, vous l'avez dit d'ailleurs, en levée de rideau, avant la grande pièce. Et c'était une tradition du théâtre, le levée de rideau, qui était très fréquente encore au début du XXe siècle. Jules Renard en a fait notamment des merveilleux, qui sont deux pièces, qui sont deux chefs-d'œuvre absolus, qui sont le plaisir de rompre et le pain de ménage surtout, qui n'a pas pris une ride aujourd'hui, et qui se jouait avant des grandes pièces. C'était le temps où le public avait le temps de rester au théâtre, où il avait envie de rester au théâtre, où il n'avait pas peur des longues soirées au théâtre.
Il y a une pièce qui s'appelle Un homme d'hier et une femme d'aujourd'hui, et j'ai vu que ça a été créé au Théâtre de la Madeleine le 24 mars 1930. Votre Théâtre de la Madeleine, enfin le théâtre en tout cas où
qui était le Théâtre de Guitry, dont il a été le directeur. Il y a créé 24 pièces. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez émouvant d'y jouer tous les soirs, Faisons un rêve, qu'il y a joué d'ailleurs, non pas à la création mais en reprise, dans cet espace, dans cet endroit. J'aime beaucoup me promener pendant que mes camarades jouent la première scène de Faisons un rêve. J'aime beaucoup aller dans la loge, qui était la loge de Guitry. Et puis je m'assieds dans le canapé, et puis je regarde. Et je me dis quand même, il était là, il était dans cet espace. Il allait de la table de maquillage au canapé sans doute, au fauteuil, il devait prendre des choses dans le placard... Je ne suis pas du tout un mystique, je ne suis pas du tout... Mais je crois quand même à la force des endroits. Bon. Voilà.
Il y a aussi dans ce volume Le Voyage de Chang Li. C'est une pièce que l'on va pouvoir entendre au cours de cette nuit. C'était dans une mise en scène de Jean Meyer, c'était pour la Comédie Française. Et puis une autre pièce, alors cette-ci en 3 actes, La Jalousie. Et puis on écoutera aussi une émission dans laquelle Sacha Guitry raconte ses débuts, une autre dans laquelle il parle de son film Si Versailles m'était compté, et puis une émission signée Alain Decaux, Soirée littéraire de la Comédie Française, Si Sacha nous était compté. Et bien d'autres petites merveilles, Guitry parlant de Molière, de Bonaparte et évidemment de lui-même. Et puis nous aurons reçu au cours de cette nuit également, nous recevrons Armel Delorme, alors qui est cinéphile averti et qui a publié un Sacha Guitry, les films, vérité contre vérité et paradoxe. Donc le théâtre avec vous Nicolas Briançon, le cinéma avec Armel Delorme. Alors Faisons un rêve, c'est une pièce à laquelle vous songiez depuis longtemps, ou parce que dans votre biographie, nulle trace de Guitry avant cette année?
Non, j'ai assez peu abordé ce genre-là, c'est pour ça que ça me paraissait important de le faire. Enfin, j'imagine ma vie de théâtreux, pour employer un mot péjoratif un peu, mais comme une exploration d'univers et d'auteurs différents. J'ai travaillé des auteurs contemporains comme Kundera, j'ai été beaucoup me promener dans les classiques parce que c'est mon goût et ma formation, et donc j'ai traversé pas mal de fois Shakespeare, quelques fois Giraudoux, Molière et pas mal d'autres. Et puis j'avais jamais abordé ça, ni même d'ailleurs ce qu'on appelle communément le boulevard. et qui est un genre en soi, et qui est un genre qui fait partie de l'histoire du théâtre en France. Patrice Chéreau avait coutume de dire que la France n'avait pas d'histoire du théâtre. La seule histoire du théâtre qu'elle avait, c'était le théâtre de boulevard. Il le disait en le regrettant un peu, lui, et avec, dans le fond, un peu de mépris, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Nos auteurs classiques ont écrit d'après des genres existants, d'après la tragédie grecque pour Racine, d'après les farces de Plaute pour Molière. Ils n'ont pas inventé un genre. Le boulevard, c'est un genre, et c'est un genre inventé en France.
Le vaudeville
le boulevard qui se rejoignent. On parle de théâtre de boulevard parce que les grands théâtres qui jouaient étaient sur les boulevards. Voilà. Mais le vaudeville, c'est un genre français. Et Guitry en a été à un moment donné la quintessence et sans doute d'ailleurs la fin. Puisqu'après Guitry, il y a toujours du théâtre de boulevard, mais je dirais qu'on a eu peut-être un dernier sursaut avec Jean Poiret, et puis après, ben, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, se sont racontées différemment les histoires. Donc Guitry, c'est après Feydeau, sans doute le plus grand auteur de boulevard que nous ayons eu en France.
Mais alors, vous avez vu, vous, Nicolas Briançon, des mises en scène de vos petits camarades?
Alors, j'ai vu le film
des 30 dernières années.
J'ai évidemment vu le film de Guitry. J'ai vu, ce qui m'a donné d'ailleurs sans doute le goût de, vous savez, on est toujours prisonnier de son enfance, ou de son adolescence, en tout cas. Je pense que toute sa vie d'homme consiste à essayer de recoller les morceaux avec l'enfance. D'ailleurs, on pourra en parler pour Guitry lui-même, hein, dans ses rapports à son père. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. J'ai vu Claude Riche il y a plus de 30 ans maintenant au Théâtre Saint-Georges. J'étais il y a plus de 30 ans, oui. Donc j'étais encore en fin d'adolescence, on va dire. J'abordais ma vie de grand garçon. Je commençais à me dire que j'allais faire du théâtre. Et puis j'ai été un peu par hasard voir Faisons un rêve au Théâtre Saint-Georges. Et Claude Riche jouait la pièce et j'en suis sorti émerveillé. Et en me disant dans un coin de ma tête, un jour j'aimerais bien jouer ça. Voilà. J'ai eu ça pour cette pièce-là et j'avais eu ça en voyant la création du Jacques et son maître de Kundera au théâtre des Mathurins, que j'ai remonté quelques années plus tard. Alors j'essaye de donner de la cohérence, en gros, à des choses qui traversent ma vie et qui sont importantes et qui ont été même fondamentales. Voilà. La liberté qu'avait Riche dans ce spectacle, en tout cas le souvenir que j'en ai, la fantaisie joyeuse, l'intelligence et la drôlerie et le recul et l'humour de la situation et la beauté en même temps de cette situation, et puis le fait quand même que tout cela parle de quelque chose qui nous touche profondément, qui est la naissance de l'amour, qui est l'énergie de l'amour, la beauté de l'amour et la fugacité aussi parfois de l'amour, tout ça m'avait frappé vraiment et j'ai eu envie de retrouver ça.
Et puis la facilité finalement, parce que les choses sont beaucoup plus simples dans la vie, enfin c'est ce que dit la pièce en tout cas.
C'est ce que dit le personnage. C'est au théâtre qu'on voit des choses compliquées, mais dans la vie c'est beaucoup plus simple. Dans la vie il y a un mot, il y a un fait réel, et puis non, vous ne croyez pas ça, moi je crois.
Mais il dit beaucoup de choses les formules pourraient aussi s'inverser, c'est un peu l'impression qu'on a quand même dans cette pièce, non? Enfin, souvent dans Guitry. C'est-à-dire comme il y a des phrases, il y a des mots, il y a des sentences, il y a des phrases qui se terminent, qui pourraient se terminer autrement. Et du coup, c'est ça qui fait le comique.
Il est dans le contre-pied constant. Et puis, il est surtout dans le... Je crois qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Par exemple, on abordera sans doute cette grave question.
Alors, je note tout ce qu'on doit aborder.
De la misogynie. Non, mais parce que c'est quand même le thème récurrent. La misogynie de Sacha Guitry. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai misogyne? Je crois pas que ce soit Sacha Guitry le vrai misogyne. Honnêtement, hein, très profondément. Je pense que sa misogynie est une sorte de provocation. Moi, je l'ai entendu comme ça, en tout cas. C'est un être tellement intelligent, tellement drôle, tellement subtil, tellement amoureux des femmes, que quand il dit, par exemple, dans Faisons un rêve, ou fait dire à son personnage, je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait bien faire avec une femme en dehors de l'amour. Pas une seconde, je le prends au sérieux. Pas une seconde, j'imagine que Guitry pense sérieusement ce qu'il est en train de dire au moment où il le dit.
Et à qui le dit-il? À qui dit-il cette phrase?
Le personnage est seul à ce moment-là, il le dit au public.
Au public.
Il casse le quatrième mur, mais il fait de la
pro... Oui, il pourrait aussi le dire au mari trompé.
Il pourrait le dire au mari trompé, mais il est quoi? Il est dans un moment où il attend une femme qui n'arrive pas, qui devrait, pour lui, être là depuis déjà quelques minutes et qui n'est pas là à l'heure dite, et il est dans l'angoisse de ça, et il s'impatiente, et il balance des piques, et il balance des vacheries, voilà. C'est pas plus que ça. Alors, je crois qu'il faut traiter ça avec le... Je crois que Guitry est toujours dans le recul de ses assertions, quoi. Enfin, j'arrive pas à les prendre... Moi, je ne les ai jamais entendus sérieusement en travaillant cette pièce.
Et puis un homme qui attend une femme pourrait l'attendre en lisant, en fumant, en faisant je ne sais quoi. Lui, il visualise absolument toute son arrivée. Elle part de chez elle. Là, elle un taxi. Elle ne va pas quand même dire qu'il n'y a pas de taxi. Il y a toujours des taxis vers la
maison. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous me permettez. Je n'ai pas l'impression que si vraiment on est amoureux, si vraiment on est dans le désir hein, et qu'on attend une femme qui doit arriver, ce qui vous est sûrement arrivé très fréquemment. Moi, ça m'est arrivé il y a longtemps. Mais c'est très difficile de faire autre chose. C'est très compliqué de prendre un livre et de s'abstraire dans la lecture à ce moment-là. On est effectivement juste dans cette impatience. On est juste dans ce bouillonnement. On est dans cette fébrilité-là. Et c'est ce qui lui arrive. Il est dans la fébrilité, dans l'impatience, le bouillonnement. Et donc, il imagine le trajet que cette femme fait en partant de chez elle, sa descente d'escalier, la sortie de chez elle, la traversée du trottoir, appeler le taxi, puis elle au fond du taxi, et puis le trajet du taxi, par où elle passe, traverser les Champs-Élysées, prendre la rue Washington. Alors, la rue Washington.
La statue de Shakespeare.
Alors, un peu plus loin, quand on prend le boulevard Haussmann et qu'on descend le boulevard Haussmann, parce que vous pouvez faire ce trajet, il est rigoureusement exact, et la durée est rigoureusement exacte. Hein. Alors, la seule chose qui est plus tout à fait exacte...
C'est la rue Washington qui est pas dans le bon sens, peut-être.
C'est la statue de Shakespeare qui est plus là,
voilà,
surtout.
C'est ce qui m'a semblé.
Oui. Il est resté longtemps une librairie Shakespeare là, et je crois qu'elle a même disparu. Mais avant, il y a toujours ce petit rond-point, à un moment donné, on décrochait sur la gauche du boulevard Haussmann. Avant Saint-Lazare, et puis là on peut tourner autour et on prend l'avenue de Messine. Oui. Et à l'avenue de Messine, au numéro indiqué, et ça on ne savait pas, avec Pierre-Yves Leprince, le décorateur du spectacle, il y a au premier étage, qui est son étage, puisqu'il y a 21 marches pour accéder à sa porte, il le précise, une grande fenêtre, exactement comme celle qu'on a indiquée dans le décor, et qui plonge sur la rue de Messine et par laquelle il voit arriver, où il guette le taxi, qui met du temps à arriver d'ailleurs.
Non mais Sacha Guitry, narrateur, personnage, attendant une femme qu'il veut séduire, qui est déjà séduite de toute manière, sinon elle ne viendrait pas chez lui comme ça à 21h, c'est très tard en 1916, si ça se passe en 1916, l'heure de la création de la pièce.
Elle a encore la possibilité de dire non, elle n'est pas...
Certes.
C'est pas parce qu'elle accepte ce rendez-vous qu'elle a tout accepté.
Non mais lui, il a une attente qui est fébrile, mais qui n'est pas malheureuse, c'est pas le narrateur dans La Recherche d'un perdu qui lui imagine tout à fait autre chose et qui est dans la jalousie, dans la... Voilà.
Non, il est positive.
Oui, elle va arriver, elle n'arrive pas, tant pis.
Oui.
Et puis hop, elle sonne.
Oui, enfin, il passe par des phases un peu différentes. En ce sens, le monologue d'ailleurs du deuxième acte, qui est quand même une curiosité extraordinaire dans l'histoire du théâtre, 17 minutes.
17 minutes.
Dans l'histoire du théâtre français, c'est-à-dire que tout d'un coup... Et moi, c'est ce qui me touche profondément, c'est ce que j'aime profondément dans le théâtre de Guitry et chez Guitry lui-même, et qu'on retrouve d'ailleurs dans son cinéma, mais vous en parlerez avec des spécialistes bien plus connaisseurs que moi, c'est sa liberté absolue. C'est-à-dire la connaissance absolue qu'il a des règles du théâtre. On sent que fils d'acteur, et pas de n'importe quel acteur, du plus grand acteur de son époque, il connaît tous les rouages, il a lu tous les auteurs, il connaît la façon dont les pièces doivent être agencées pour qu'elles fonctionnent, il connaît, je dirais, l'artisanat, la mécanique du théâtre. Et en même temps, quand il écrit, il oublie tout, il oublie toutes les règles, et ça lui permet d'être d'une liberté totale et de créer un acte qui est a priori anti-théâtral au possible, c'est-à-dire un type seul qui attend une personne qui n'arrive pas. En ce sens, d'ailleurs... On pourrait
Godot.
Entendre, oui, mais bien sûr, on pourrait entendre ce postulat de départ de Beckett des deux personnages de Godot qui attendent un personnage qui lui n'arrivera jamais. Mais en l'occurrence, il y a cette capacité à inventer cette situation théâtrale là avec un instrument qui en 1914, puisque la pièce est jouée en 1916, mais il a écrit la pièce en 2 jours et demi, dit-il, en 1914. Avec un instrument qui n'est quand même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire avec un téléphone. On a en 1914 un rapport très différent au téléphone que celui qu'on a évidemment avec nos portables aujourd'hui. Et il arrive à créer dans cet acte-là, dans un premier temps dans l'attente, puis dans cette conversation qu'il essaye d'avoir avec elle au téléphone qui est restée chez elle, une liberté d'invention. Et puis le personnage passe par des phases où il s'angoisse, où il a peur, où il s'énerve, où il est en colère, où tout d'un coup il a l'impression que tout lui échappe et puis qu'elle ne viendra pas. Et tout d'un coup il essaye même... presque à un moment de lui faire l'amour au téléphone. Replaçons-nous dans le contexte, tout ça est quand même extraordinaire. Faisons un rêve, c'est la première pièce où une femme découche sur scène.
Chez Fedot, on n'a pas vu ça ?
Si. Non.
Non.
Enfin, non, chez Fedou, elles sont prises dans des engrenages où on pense qu'elles découchent. Mmh. Ou alors c'est des cocottes.
Elles vont à l'hôtel aussi, même les femmes mariées vont.
Elles vont à l'hôtel, mais généralement pour se venger de leur mari, et généralement ça ne se passe pas.
Eh oui.
Et ça ne se fait pas. Non, là ça se fait. C'est-à-dire que l'adultère a lieu.
Sous nos yeux.
Sous nos yeux, il a lieu devant nous. C'est d'une... J'aime pas le mot modernité, parce que le mot modernité, c'est un peu la tarte à la crème. Dès qu'on parle d'une pièce classique, on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est moderne ?» C'est mieux que ça. C'est intemporel. Ça traverse le temps, ça traverse les époques. Ça nous parle aujourd'hui comme ça parlera aux générations dans 30 ou 50 ans. Moi, ce qui me fascine, ce qui m'intéresse, ce qui m'a passionné dans le travail avec Guitry, c'est sa liberté profonde, prodigieuse, à inventer, à se faire plaisir, en fait.
Alors, est-ce que ça va vous faire plaisir, Nicolas Briançon, d'écouter un petit passage du film « Faisons un rêve » ?
Mais bien sûr.
Certainement. Et puis après, on parlera de la distribution d'aujourd'hui.
Non, mais c'est, Faisons un rêve, c'est passionnant d'entendre Guitry et les autres, et Rému et Delubac.
Ah, voilà. Vous allez les reconnaître, certainement. Enfin, vous les connaissez par cœur, certainement.
Allez, Youp. Quel Youp ? Ça veut dire parti. Allez,
ah, bon.
Mais oui.
Ah,
allez.
Quoi ? À quelle heure le train ?
Ah ça, excusez-moi, j'ai jamais pu comprendre le patois. Jamais.
Je veux pas parler de patois.
Si, non, non. Ça vous a
échappé. Je veux pas parler de patois. Hey, si. Et non, je vous ai dit à quelle heure le train, le chemin de fer.
Oh, on la voit là. Oh, ça, sûrement, c'est elle, sûrement. C'est un taxi comme l'autre. Il tourne autour de Shakespeare comme l'autre. Il prend l'avenue de Messine comme l'autre. Il ne voit pas les numéros comme l'autre. Il s'arrête devant le 23 comme l'autre. Ah, elle va descendre là tout de même. Elle ouvre la portière. Je vois déjà le bas de sa jupe. Oh merde, c'est un curé.
Oh, j'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine.
Avec qui ?
Ben, avec un Américain du Sud, parbleu.
Comment s'appelle-t-il ?
Comment il s'appelle ?
Ah oui, il a un nom, cet homme-là.
Ah ben, je crois bien, il en a même trois. Mais il s'appelle, c'est simple, il s'appelle...
Comment ?
Mais attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle tout bonnement Lopez Quita de la Nanana.
Quoi ?
Ah ben, c'est comme ça, moi j'y peux rien, hein.
On m'a toujours dit qu'il fallait tirer le premier. Alors, n'hésitons pas.
On les va ! Mais monsieur !
Eh bien, cet ami loyal et dévoué va vous poser une question.
Oui ?
Peut-il espérer de vous une réponse absolument précise ?
Oui.
Bien. Eh bien, les yeux dans les yeux, je vous le demande. Et je vous supplie de me répondre. Voulez-vous du beurre sur le pain ?
Oh ! Oui, et tu préférais renoncer à sortir avec lui ce soir plutôt que de m'infliger sa présence.
Ah, ça, oui. Je fais passer mes affaires après ton plaisir, je l'avoue.
Tu es bien aimable.
Et si ça t'embête que j'y aille seul, eh bien, je resterai tout tranquillement ce soir à la maison. Oh, mais j'en mourrai pas, tu sais.
Je l'espère.
Oh, mais alors, qu'est-ce qu'il a dû faire ?
Eh bien, je pense qu'il a dû, je sais pas, se mettre sur le balcon pendant une demi-heure, le temps de chiper un rhume, et puis alors, au bout d'une demi-heure, ou bien il s'est couché en disant avec l'accent du midi, ça y est, je suis cocu.
Oh.
C'est absolument inexact, n'est-ce pas ? Ou bien alors, il a téléphoné tous les postes de police de Paris.
Ça ? Quoi ? Qu'est-ce
qu'il y a ? Pourquoi parlez-vous si bas ?
Ah, je parle bas ?
Oui.
Ah, je me suis pas rendu compte. Pardon. Je parle bas parce que je ne suis pas seul, là. Il n'y a pas que vous, comprenez ? Écoutez, mon amour adoré, moi, je ne veux vous dire qu'un mot parce que ce mot-là, il me vient du cœur. Écoutez, alors, mademoiselle, écoutez pas, s'il vous plaît. Alors, chérie, écoutez, mademoiselle, écoutez pas, écoutez pas, mademoiselle, je vous retire la main.
Faisons un rêve, le film de Sacha Guitry avec Sacha Guitry. Alors, Nicolas Briançon, je vous ai vu rire pendant cet extrait, enfin, qui est une bande-annonce, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui sont là, ramassées, que vous avez évidemment reconnues, parce que vous les jouez, vous, avec toute la distribution au Théâtre de la Madeleine, tous les soirs.
Bah, oui, j'ai ri, parce que d'abord, ce sont des immenses acteurs. On est tellement heureux d'entendre Rému aussi, de cette extraordinaire vérité de chaque seconde, même dans l'énormité, et puis cette fantaisie incroyable de Guitry. Je crois que quand on a présenté le spectacle à la Madeleine, les gens étaient surpris parce que ça va vite, effectivement. On a l'impression d'un jeu, et j'ai voulu cette rapidité, mais on est beaucoup moins rapide qu'eux. C'est-à-dire que je joue quand même en jouant vite, je joue beaucoup moins vite que Guitry. D'ailleurs, vous savez, il y a une chose assez simple, le film fait 1h09 et nous on fait 1h17, 1h18 de représentation avec exactement le même texte, puisque j'ai repris des petites choses qui sont dans le film et pas dans la pièce. écrites, mais que je trouvais très drôles, des petits rajouts qu'ils ont sans doute trouvés en représentation avec Rému dans la joie de l'échange et de la représentation.
Oui, parce qu'il y a les jeux de cartes, tout ça.
Oui, il y a des différences. Il y a des, par exemple, quand il essaie de l'avoir au téléphone et qu'il lui dit quoi, vous avez peur qu'elle quoi, il parle de elle lui dit qu'elle est avec sa femme de chambre et que donc elle ne peut pas lui parler très fort et donc il lui dit vous avez peur qu'elle cache quoi, qu'elle sache quoi, à que vous téléphonez si longtemps. Ah oui, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre, c'est pas elle qui paye. Bon, ça par exemple c'est dans le film mais c'est pas dans la pièce et je trouve que c'est tellement oui. Génial dans la scène avec lui, il y a cette merveilleuse réplique sur le l'américain du sud, naturellement c'est un mythe. Alors un mythe fait l'autre, oui, un mythe. Mythe, ça n'est pas le mari de la mythe. C'est, voilà. Bon, mais ça, c'est dans le film, c'est pas dans la pièce. Et je trouvais que ces répliques-là, elles étaient tellement drôles et percutantes qu'il fallait les mettre.
Oui. Donc, alors, ça, vous en avez emprunté au cinéma, vous avez pris la pièce. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez remplacés par d'autres? Je sais pas, par exemple, il y a les salopes à un moment donné.
Non, dit. Enfin, ça, c'est dans la pièce.
C'est dans la pièce, hein.
Non. Oui. Je me suis.
Ça passait en 1916.
Visiblement oui. Mm-hmm. Non, elles ont coupé les salopes. Ça, j'engage tout le monde à retourner au texte publié. Il est dans la pièce. Non, et puis alors surtout des mots comme ça, je me permettrai pas de les.
Oui.
Il se trouve que j'ai une formation assez classique, que je suis un temps passé par la Comédie Française et que j'ai été formaté, élevé, dressé.
Au respect du texte.
Oui, au respect du texte, auquel j'attache beaucoup d'importance. Y compris d'ailleurs quand je tourne des choses, j'ai la chance d'être dans une série de Canal Plus qui s'appelle Engrenage et qui a un certain succès, qui est vraiment une série policière, donc très ancrée dans le réel et dans le quotidien. Et je ne brode pas, je suis très rigoureux sur les choses de texte. Donc non, j'ai pas rajouté de choses dans la pièce. J'essaye de faire entendre ce qu'il y a d'extraordinairement moderne et libre dans Guitry, mais qui est écrit.
Alors, ce qui est formidable aussi, et ça, de toute manière, vous n'alliez pas vous jeter dans ce piège, bien entendu, c'est que pas un moment dans cette pièce devant laquelle on rit, enfin, en effet, pendant une heure vingt, et on est là pour ça, au Théâtre de la Madeleine, jamais on entend la voix de Guitry. Enfin, ça aurait été une stupidité, bien entendu, de prendre la voix de Guitry. Mais on oublie totalement Guitry. Même, je trouve que le soir où je suis allé voir la pièce, les spectateurs, les spectatrices, surtout, riaient comme si c'était vous, le comédien ou les autres comédiens qui inventaient ces phrases, quoi, qui étaient...
Ça me fait plaisir que vous me le disiez, et j'espère que c'est le cas, enfin, il faudrait que ce soit le cas d'ailleurs, c'est la définition même du théâtre, oui. D'une certaine façon, c'est-à-dire d'imaginer. Moi, je crois que le théâtre, c'est le présent. Ça doit être au présent. Voilà. Si on n'est pas au présent au théâtre, on s'ennuie. Il faut que on doit avoir l'impression que cette histoire se crée devant nous pour la première fois, s'improvise devant nous. Voilà. Donc, tant mieux si vous avez eu cette impression-là. L'autre chose, et c'est vrai qu'on aborde un cas particulier dans le cas de Guitry, c'est que, on n'a pas de témoignage de la voix de Molière, on n'a pas de témoignage de la voix de Shakespeare, on a très peu de témoignages de la voix de Giraudoux, en tout cas interprétant ou lisant ses textes, ou lisant ses pièces, et puis qui n'était d'ailleurs pas un acteur, donc je le raccorde aux auteurs dramatiques, comédiens eux-mêmes, ou metteurs en scène eux-mêmes. En revanche, on a la voix de Guitry très forte, puisqu'on a ses films, qu'on connaît très bien le personnage, et donc c'est un cas un peu particulier où l'écriture et l'acteur nous paraissent extraordinairement mêlés. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on travaille, pas tout le temps, parce que le texte présente un mélange un peu constant de phrases très écrites, tout d'un coup, très Guitry, et puis de phrases très, très quotidiennes, très parlées, très simples. Donc les phrases très quotidiennes, très parlées, très simples, on arrive à les prendre en charge et plus facilement, en tout cas, à faire oublier la voix de Guitry. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des phrases où moi-même je me bats parce que j'entends la voix de Guitry. Et j'essaye de ramener ça à un texte que, comme je le ferais pour n'importe quel autre rôle, comme je le ferais pour un classique ou une pièce contemporaine, en faisant abstraction de la voix de Guitry. Mais c'est vrai que quand il dit, par exemple, à un moment, eh bien, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, puisque par ta faute j'ai cette impression étrange d'être loin de toi et de pouvoir pourtant te parler à l'oreille, je vais en profiter pour te dire tous les mots qui me viendront comme ils viendront sans les choisir. Mais tu sais, tiens-toi bien, et tant pis pour toi si je te fais rougir. Bon, très vite. Cette phrase-là, notamment, très vite, j'entends, ou en l'apprenant, en le travaillant, j'avais là, derrière mon petit crâne,
Sacha,
la voix de Guitry, le phrasé de Guitry, la rythmique de Guitry, les intentions de Guitry, presque la gestuelle de Guitry, on voit le doigt s'agiter un peu comme ça, un peu en l'air, etc. La voix part un peu dans le nez, et tout d'un coup, il faut se dire, op, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il le dit? Et puis revenir à ça, parce que Guitry lui-même, contrairement, je pense, à une idée préconçue, ne pérore pas. Il est comme ça. Il parle comme ça, Guitry. C'est sa vérité à lui de parler comme ça. Mais si vous l'imitez, alors vous devenez, hein, ça n'a plus de sens, ça a plus de, vous n'êtes plus dans l'action. Donc trouvons pourquoi le personnage tout d'un coup fait une phrase, pourquoi tout d'un coup cette phrase-là devient littéraire, essayons d'imaginer les intentions qu'il y a derrière et on arrive à s'arracher à la voix de Guitry. Mais c'est vrai que c'est un cas un peu particulier.
Et puis c'est un séducteur qui ne veut pas souffrir non plus, donc de temps en temps il est obligé de faire des phrases pour prendre une espèce de distance avec
la... Pour la séduire,
oui.
parce que le personnage séduit par les mots d'abord.
Oui, il faut dire que son propre mari à cette jeune femme n'est pas très très séduisant, c'est peut-être aussi facile de séduire une jeune femme dont le mari est aussi bête.
Je voulais pas qu'il ne soit pas séduisant. Et d'ailleurs, je trouve que Eric le joue.
Alors, Eric, donnons.
Eric Logérias, pardon.
Donnons la distribution.
Eric Logérias, qui fait le mari, Marie-Julie Baupe, qui fait elle, puisque l'amant c'est lui, elle c'est elle, et c'est le mari, qui s'appelle Gustave, on l'apprend à la fin. Michel Dussara joue le domestique, et je joue lui, donc l'amant. Oui, je trouve que le mari, c'est pas qu'un imbécile, C'est un type qui trompe sa femme, ce qui n'est jamais très bien, qui n'en fait pas un héros non plus, évidemment. Puis c'est un type qui a surtout l'accent, et on sent bien que dans l'accent, il y a une part de, tout d'un coup, de provincialisme, de provincial.
Un peu méprisant, hein, quand même, un début de XXe siècle, un peu méprisant pour c'est du patois, le Marseillais, enfin, alors qu'il parle pas patois.
Oh, méprisant. C'est plus ironique que méprisant. C'est plus drôle que méprisant. Je crois pas qu'il y ait.
Si la pièce tournait à Marseille à l'époque, peut-être que c'était un peu mal. Non, mal vu.
Vous savez, on l'a joué à Marseille. Alors, c'est un très bon exemple, puisqu'on a joué cette pièce-là au mois de juillet à Marseille, dans un festival devant 3000 personnes. Et c'est ce qui a fait sans doute ce qui a fait le plus rigoler les Marseillais à ce moment-là. Non, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait le mépris. Il y a l'ironie, il y a la drôlerie. Et puis, c'est de la drôlerie sur lui. Ça fait beaucoup rire les Marseillais qu'un Parisien ne comprenne pas le mot train. Qui veut dire chemin de fer, voilà, parce que l'accent l'empêche de comprendre. C'est les Marseillais qui prennent les Parisiens pour des cons dans ces cas-là.
En tout cas, je vous disais tout à l'heure, Nicolas Briançon, que le spectateur que j'étais, les spectateurs qui étaient autour de moi, donc au Théâtre de la Madeleine, pour voir Faisons un rêve, la pièce que vous avez mise en scène et que vous interprétez avec les petits camarades que vous avez cités à l'instant, je me disais, c'est lui qui est drôle. Enfin, c'est Nicolas Briançon, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il joue incroyablement bien. Et j'oubliais le Sacha Guitry, sauf que je ne l'oublie pas, puisqu'on fait cette nuit une nuit Sacha Guitry. Mais c'est, vous l'avez dit, vous avez raison, c'est le théâtre, c'est le direct, enfin disons-le.
Oui, vous savez, Jean-François Balmer a l'habitude de dire que c'est les bons rôles qui font les bons acteurs. Mais c'est l'évidence. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est évidemment le texte. Ce qui est drôle, c'est la situation. Et notre travail d'acteur, c'est de se mettre au service de ce texte et de cette situation et d'essayer de la rendre dans sa plénitude, dans sa complexité. Donc, et je le dis sans aucune fausse modestie quelconque, je le crois profondément. Le génie, si génie il y a dans cette histoire, c'est Guitry. Et nous, à nous de bosser pour que ce génie-là parvienne au public et l'étonne encore une fois dans tout ce qu'il a de moderne, d'enthousiasmant, de merveilleusement intelligent, quoi.
Et jamais de cynisme, finalement. Parce que le souvenir que j'avais de la pièce, quand même, c'était enfin, du personnage, un peu des Guitry, des nombreux Guitry qu'on a pu voir en Marie. En Marie, d'ailleurs, cocufieur, je ne sais pas si ça se dit, ou cocufier, enfin bon. C'est quand même le cynisme qui parfois permet de s'en sortir un peu différemment d'autres pièces, finalement. C'est toujours un personnage de théâtre. Dans le théâtre, il doit être pareil dans la vie.
Alors, je ne connais pas tout le théâtre de Guitry. Hein. Il y a 124 pièces, je crois. C'est gigantesque. C'est une œuvre absolument démente. Je ne crois pas que dans le cas de Faisons un rêve, il y a du cynisme.
Non, il n'y en a pas. C'est parce que vous le jouez avec le sourire tout
Non,
le temps,
je crois que c'est aussi parce que c'est une pièce de jeunesse, que c'est une pièce sur l'enthousiasme de l'amour.
Il n'a pas encore souffert.
Oui, c'est la fin d'un cycle, hein, Faisons un rêve. Il va écrire après d'autres grandes pièces, mais qui vont être dans une tonalité assez différente. Il est encore dans l'enthousiasme, il est encore dans la fraîcheur de Oui, de l'amour, de ça, du plaisir, du plaisir aussi, parce que il faut pas ramener Guitry à un auteur simplement dans les mots, dans le verbe et dans l'amour qui se dit. Il est aussi dans l'amour qui s'éprouve. Hein, il est dans le charnel, il est dans le concret de l'amour. Il n'est pas simplement dans les mots. Mais je crois non qu'il y a pas de cynisme. Et quand il y a de la misogynie, il y a de la provocation, il y a de l'enthousiasme, il y a une façon de se défendre aussi, de conjurer ses peurs. Il y a tout ce qui se passe quand on est amoureux et qu'on a l'impression de vivre ce sentiment pour la première fois, parce que dans le fond c'est tout le temps la même chose, quel que soit l'âge qu'on a. Hein.
Alors j'ai signalé au début de notre entretien, Nicolas Briançon, que les éditions Omnibus avaient publié donc des pièces en un acte. Je me souviens plus combien il y en a, une vingtaine je crois. C'est un volume préfacé par Olivier Lejeune, les pièces sont réunies par Claude Gotter. Alors il faut signaler que les mêmes éditions Omnibus ont publié, republié, parce que ça c'était, on le trouvait quand même, enfin bon, Les Mémoires d'un tricheur, et c'est l'unique roman de Sacha Guitry. Alors, on a en tête Roman d'un tricheur, et oui, c'est la même histoire, c'est la même histoire des champignons, ça commence comme ça, mais c'est Mémoire d'un tricheur et c'est le roman, vous l'avez lu.
Oui, je l'avais lu, puis je l'ai relu, justement, c'est génial, puis c'est un grand roman, alors pour le coup, et je me dis quand même un type qui arrive à trouver, je tourne les pages pendant que... Cette phrase-là, qui arrive pratiquement au bout de la dixième ligne du début, mais du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde, cette capacité au raccourci, à emprisonner comme ça une vérité dans si peu de mots, en une phrase, en une tournure, je trouve que c'est du grand art. Voilà. Ça, c'est un vrai art de romancier aussi, en plus. C'est pas simplement un art d'auteur dramatique, c'est l'art du roman, justement. Hein. On s'approche du longtemps, je me suis couché tard.
De bonheur.
C'est-à-dire que cette capacité à dire, à raconter avec une formule, avec un esprit. Moi, je suis très, 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 très admiré. Je trouve que c'est ça, les grands écrivains.
Alors, donc, Les Mémoires d'un tricheur, est-ce qui était amusant dans ce... Enfin, moi, le souvenir que j'en avais, c'était peut-être le souvenir, finalement, du film, et j'ai l'impression que tout tournait autour de cette... en effet, l'enfant qui a volé de l'argent, donc il est puni, donc il n'aura pas droit à manger les délicieux champignons, sauf que ces délicieux champignons empoisonnent toute la famille, et qui mettent du temps à mourir. Alors, les trois premiers morts, les gens qui viennent, les voisins sont très, comme ça, ont une tête de circonstance, puis après, bon, à partir du quatrième mort, ils sont un petit peu moins... Oui, hop, on attend, ouais, le cinquième, on s'habitue à tout. Mais l'histoire commence après ça et elle est assez longue. C'est l'histoire d'un tricheur, c'est vraiment un joueur. C'est un personnage aussi dans les casinos qui va à Monte Carlo, qui décrit Monte Carlo, Monaco, tout le mélange de le lieu, le village, la ville, l'État, enfin, ça, avec gourmandise et moquerie.
Oui, un regard d'une ironie profonde, d'un amusement profond. Il y a aussi, vous en parlerez sûrement dans la partie cinéma, puisque c'est aussi un film, il en a fait un film, c'est l'invention de la voix off. C'est-à-dire que avant ce film, il n'y a pas de voix off. Et tout d'un coup, ce roman va servir de fond de sonore au film, sans qu'il fasse pas dialoguer d'ailleurs ou très peu les personnages. Et ce regard sur la société qui est la sienne, hein, qui est la société bourgeoise, pour ne pas dire fortuné de l'époque et sans aucune complaisance et cinglant parfois même. Francis Huster en avait fait un spectacle il y a quelques années qui était très chouette, en tout cas à ses débuts, qu'il avait créé au Théâtre des Mathurins et qui était tout à fait étonnant. Il en avait fait une sorte de long monologue comme ça et qui s'était mis à ressembler vraiment à une pièce de Guitry. Et c'était très, très... Et je crois d'ailleurs qu'Olivier Lejeune va le reprendre. Il me semble. Je trouve que le roman d'un tricheur, Les Mémoires d'un tricheur, pardon, c'est un très, très grand roman. Voilà. Grand roman.
Un court et très très concis roman, ouais. En effet, et voilà, passionnant. Donc bon, c'est la nuit Guitry, on découvre Guitry, on en dit le plus grand bien parce que le théâtre et le cinéma et le roman de Guitry sont
Oui, mais en même temps, pourquoi en dire du mal?
Ah ben, sont admirables. On parle de l'œuvre, on parle de Guitry, ouais. On va écouter ses œuvres au cours de cette nuit. Et puis, très vite, eh bien, tous les Parisiens et les non-Parisiens, mais venant à Paris, en tout cas, iront voir Faisons un rêve. Ça, bon, on est en novembre, ça va on a le temps, non, les fêtes.
Ah bah j'espère qu'on va y être jusqu'aux fêtes, oui, jusqu'à début janvier.
Certainement. Alors, Nicolas Briançon, on vous retrouve en toute fin de cette nuit Sacha Guitry, qui va commencer par Sacha Guitry lui-même, parlant de Molière, et puis on écoutera deux pièces. Le voyage de Tchangli, c'est une pièce en un acte, une de ces pièces en un acte qui sont publiées par les éditions Omnibus, et suivie de La Jalousie, deux mises en scène de Jean Maillère en 1960 à la Comédie Française. On écoutera Sacha Guitry lui-même parlant de ses débuts. On rencontrera Armel Delorme venant nous parler du cinéma de Sacha Guitry. Et puis ensuite, eh bien voilà, il y aura beaucoup, beaucoup d'autres émissions consacrées à Sacha Guitry.